qui serait la répétition des aventures sexuelles et qui me semble le lieu de l'auteur, au sens, encore une fois, maîtresse de Chateaubriand, dont Jeannette parlait tout à l'heure. Et une zone qui échapperait à l'ensemble de votre propos sur l'auteur. Pour moi, lecteur, en tout cas.
Ma réponse à la première question est non, et à la deuxième, oui.
Vous n'en direz pas plus.
Si, éventuellement. Oui. Enfin, quant à le fait que je n'ai jamais soutenu qu'il n'y avait pas d'évolution, que j'étais quelque chose d'absolument continu, que ça serait absolument sinistre. Non, pas du tout. Mais le fait que vous opposiez certains massifs, si je puis dire, à d'autres, vient peut-être, et ça on peut difficilement vous le reprocher, que vous n'êtes pas dans le chantier, mais dans ma conception telle que je ne suis pas sûr d'en venir à bout, par exemple, les églogues, c'est-à-dire le travail des premiers volumes, n'étant en aucune façon abandonné. Et si je n'y ai pas travaillé depuis plusieurs années, ni les co-auteurs qui travaillent avec moi, c'était parce que d'abord, il était dans les œuvres collectives, il est difficile de réunir en même temps tous les participants pour continuer à travailler, et d'autre part parce que nous étions submergés par la matière. Et il faudra entrer dans les détails techniques.
Ça, je pense, de toute façon, je prends l'engagement au nom de Blaise Gauthier qu'on organisera un débat avec Denis Duvert, Tony Duparc, Jean-Renaud Camus, etc. Enfin, un jour, tous vos co-auteurs seront ici autour de vous. Ça, je pense qu'on fera une revue parlée
sur eux.
Absolument. Peut-être même avec Roman II de Caroni qui pourrait venir à cette occasion.
Il est aveugle comme Homer.
Non, mais ça, c'est tout à fait prévu dans le programme.
Donc, oui, non, il n'y a pas vraiment d'opposition, en tout cas, entre les périodes. Et si Dieu me prête vie, j'espère que les églogues seront reprises et continuées, y compris dans un avenir relativement proche. Il s'agissait, au fond, de placer ailleurs de la matière. Parce qu'à partir du moment où des contraintes très fermes ont à traiter un domaine de plus en plus large, ces contraintes, on a beau resserrer les boulons, deviennent de plus en plus laxistes, c'est-à-dire que n'importe quoi pouvait entrer dans ces livres. Et donc j'étais submergé sous la possibilité de choses qui pouvaient entrer dans les églogues. C'est pourquoi j'ai dû détourner la matière sur autre chose. Donc là, non, je ne crois pas. On peut revenir très bien à des types de travaux que je n'ai pas traités récemment, mais il peut y avoir un volume des blogs dans un avenir assez proche, encore une fois, si la Providence le permet. Quant à l'autre point, là, vous avez hélas tout à fait raison. Le sexe, par définition, est un peu buté. Ça, c'est vrai. Le fétiche, par exemple, a une insistance qui est un peu agaçante et peut-être, par définition, bête. Enfin, j'ai fait l'éloge du fétiche souvent, comme en particulier Merveilleuse école du regard, comme on disait, je crois, du nouveau roman. Le fétiche est, oui, pour moi, l'école du regard par excellence. Mais le fétiche a l'inconvénient d'être en effet un peu insistant et d'être de créer du texte, de l'écriture, des phrases, des paragraphes qui sont un peu répétitifs. Je ne puis que le constater. Et il n'y a pas beaucoup de variété dans mes écrits dans ce domaine où j'ai cru observer que, je ne sais pas, mettons, les grandes blondes dotées d'une poitrine particulièrement abondante étaient, par exemple, légèrement sous-représentées. En effet, c'est exact.
Et j'avais cru le remarquer également. Oui.
Mais je le déplore, oui. Je le déplore. Je trouve ça un peu bêta, mais enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que le sexe sera dépourvu de cette insistance un peu niaise. Jusqu'à présent, je ne peux que reconnaître la contradiction et rappeler malgré tout que j'ai posé le droit à la contradiction comme étant de l'essence même de ce qu'est un auteur.
D'accord. Enfin bon, je n'insiste pas, mais c'est vrai que ça, enfin, cette contradiction est massive par rapport à, me semble-t-il, le discours que vous tenez sur l'auteur.
C'est gentil de ne pas insister.
Bon, et une, enfin, il y a une zone d'authenticité comme ça chez vous qui fait, bon, voilà, qui intervient très fort.
Zone d'authenticité. Jean-Pierre Salgas, zone d'authenticité. Ça, la chienne, ma chienne, sur ce point. Authentique vous-même.
Il va me faire trois lignes dans son journal sur ce sujet. je voudrais repasser la parole à Gérard Jeannette avant peut-être d'ailleurs ensuite de la donner aux grandes blondes qui pourraient éventuellement vouloir poser des questions à Renaud Camus et
Magari.
À Jeannette. En particulier, bon, revenir peut-être, bon, mais je ne sais pas, sur cette question. Enfin, sur la.
Désolé, les questions.
Ah, d'accord. Je suis vraiment désolé. Et peut-être vous demander, alors, en dehors des questions que vous avez, vous demander votre sentiment éventuel, surtout dans la mesure où aujourd'hui, votre travail s'éloigne, je dirais, par le surplomb de la stricte littérature. Bon, votre sentiment sur les propos dont je ne sais comment il faut les prendre, batmologiquement, pour reprendre un mot camusien, les propos de Renaud Camus sur l'art contemporain et certains états de. Enfin, au fond, la paratextualisation généralisée qui remplacerait la textualisation généralisée, qui serait tant le fait de l'art contemporain qu'éventuellement le fait d'une certaine littérature. Bon. D'ailleurs, je ne sais pas, Renaud Camus, si vous l'avez fait exprès, mais s'ouvre à Beaubourg bientôt, enfin, vous avez employé le mot de manifeste, une grande exposition d'art contemporain qui s'appellera Manifeste. C'était une. Oui, je ne savais pas si c'était. Oui. Mais Gérard Genette va répondre sur la. Je pense que la.
Puisque à la demande générale. C'est pas là-dessus que j'avais envie de répondre.
Mais je satisfaisais votre envie d'abord de répondre
oui.
sur.
Oui. Non, écoutez, dans un ordre qui répond à je ne sais trop quoi. Je partage assez votre faible goût pour Sade. Et mon goût pour Roussel est modéré. J'adhère assez aux raisons que vous avez dites. Moi, je recevais plutôt ça et je sentais consonné avec cela, c'est-à-dire avec, bon, en gros, avec la proposition Roussel, par exemple, est un peu surestimée, sur laquelle nous sommes d'accord. Je sentais comme consonnant à cela ce qu'a dit Renaud Camus sur l'art contemporain. Et je ne le ressentais pas tellement, comment dire, sur le motif de l'abus d'intertextualité dont il me semble vous venez de parler.
Non, de paratextualité. Renaud Camus faisait.
Bon, non, alors sur la.
Et au fond, oui. Un art qui n'est plus que son commentaire, sa préface. Ouais.
Bon, d'accord,
c'est
autre chose.
Le discours critique. Ouais.
Moi, j'avais ressenti ça.
Et où bon, oui.
Non, mais je vous en prie. Je n'en ferai rien. Je voyais ça plutôt comme une petite irritation devant une, puisqu'il était question de plusieurs arts, comme une petite irritation, vous allez me dire tout de suite si je me trompe, comme une petite irritation devant l'aspect parfois un peu trop conceptuel qu'a pris l'art contemporain. Pour moi, Roussel est un auteur que l'on consomme de manière conceptuelle, en tout cas. Si c'est bien ça votre irritation, ou si c'est bien ça une de vos irritations, je la partage un peu. Et comment dire, je trouve le conceptuel très intéressant parce que tout de même il pose des questions, comme n'ont pas manqué de le dire un certain nombre d'esthéticiens, de philosophes de l'art. Il pose à la théorie de l'art des questions qui sont très intéressantes. Mais bon, je ne mettrai pas, comme on dit. Bêtement, mais comme voilà, ça se rapporte à ce qu'on fait ou à ce qu'on ne fait pas. Je ne mettrai pas un Andy Warhol chez moi, ni un Rosenquist, etc. Enfin, je ne sais pas s'il faut les qualifier de conceptuels, mais enfin bon. Bref, il y a des œuvres qui posent des problèmes théoriques intéressants et qui pour autant ne répondent pas forcément au goût, n'est-ce pas, de celui qui s'y intéresse sur le plan théorique. Je sais que je ne suis pas le seul, disons, en esthétique, à subir un peu ce clivage. Sur la question de la valeur à laquelle j'ai cru une seconde entendre parler Daniel Salnave, à laquelle vous m'avez reproché d'être trop indifférent, je veux répondre d'un mot parce que je l'ai déjà répondu, probablement déjà à Daniel Salnave, que je suis très très éloigné de ne pas. Je suis très éloigné de ne pas porter de jugement de valeur, disons. Ceux qui m'entendent une fois par semaine savent que je passe mon temps à cela, à dire j'aime ou je n'aime pas. Simplement, je ne pense pas que la question de la valeur soit définitoire dans tous les champs, et en particulier en littérature. Et je pense, je disais que je n'allais pas résumer fiction et diction, mais finalement je vais essayer de le faire en trois mots. J'entends par fiction et diction le premier chapitre de ce livre. J'entends ici. Je crois que la question de la valeur est définitoire pour un certain type d'œuvre littéraire. Et c'est le type d'œuvre dont je dis là que la littérarité est conditionnelle. Mais c'est vrai que pour d'autres types d'œuvres, je considère que leur littérarité est constitutive, c'est-à-dire est indépendante des jugements de valeur, c'est-à-dire que pour moi, pour le répéter pour la 300 000e fois, pour moi, une tragédie ou un sonnet sont des œuvres littéraires, qu'ils soient bons ou mauvais, comme un tableau est une œuvre picturale, qu'il soit bon ou mauvais, ou une symphonie est une œuvre musicale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais alors voilà, il se trouve qu'il y a un autre type d'œuvre littéraire pour lequel on ne peut pas dire cela, et c'est-à-dire dont la littérarité dépend précisément d'un jugement de valeur. Jugement est peut-être un bien grand mot, mais enfin bon, ça, on le trimballe maintenant depuis Kant au moins, dépend d'une réaction qui est une réaction à sa valeur, et donc dépend, si vous voulez, d'un certain sentiment de valeur. Et ça répond à un certain clivage à l'intérieur du champ littéraire qui n'existe pas dans les autres arts, où les artisticités sont pour ainsi dire toujours constitutives. J'exagère beaucoup, mais enfin en gros c'est ça. Tandis qu'en littérature, il est vrai que les artisticités sont les unes constitutives, celles des genres reconnus par consensus comme étant constitutivement littéraires, et d'autres ne le sont pas. Et par conséquent, dépendent d'un sentiment de valeur. Alors, ceci m'amène à ce que je voulais dire, et à la fois à propos de la question de Jean-Pierre Salgas sur mon éventuelle orientation vers la sociologie de la littérature, parce que j'ai écrit Seuil, et à ce que je voulais dire à propos de l'œuvre de Renaud Camus, c'est-à-dire de ma relation à l'œuvre de Renaud Camus. Alors, à la question, si c'en est une comme ça, dite comme ça, de Salgas, la réponse est non. Je ne m'oriente pas vers une sociologie de la littérature. Je ne nie pas que Seuil soit un livre qui flirte avec la sociologie de la littérature, puisque le paratexte est un objet socio-culturel autant que littéraire. Mais premièrement, mon intérêt pour cet objet n'était pas de cet ordre, et je vais donner tout de suite une petite illustration de cela. Et deuxièmement, si je suis allé jusque-là, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin que cela, parce que maintenant je suis parti dans une autre direction que vous connaissez et qui m'occupera très exactement jusqu'à mon dernier, comment dit-on, soupir. Alors. Oui, le paratexte est Renaud Camus, puisque Renaud Camus il y a. Et puisqu'effectivement. Oui, puisqu'effectivement, je me suis beaucoup plus occupé de l'œuvre de Renaud Camus que je n'en donne signe dans Seuil, par exemple. Et à propos de cela, je voudrais dire au fond ceci, qui se rapporte à quelque chose que disait Jean-Pierre Salgas tout à l'heure. En demandant à l'intéressé mais je suis sûr que je n'ai pas besoin de lui demander, de ne pas le prendre de façon négative.
Oula, ça commence mal.
Ouais. Je vais tourner ça comme ça. J'aime de plus en plus les livres de Renaud Camus,
Bon, ça encore.
Pour une raison qui est très précise, qui est que, à mesure qu'il ajoute des livres à ses livres précédents, la liste, la fameuse liste dont il était question du même auteur, s'allonge et, en effet, comme vous l'avez remarqué, se complexifie un peu. D'une certaine façon, l'objet qui me fascine le plus dans vos livres, c'est cette liste, c'est cette proposition que je vous demande de ne pas prendre de façon désagréable, n'est-ce pas ? C'est cette liste, non pas du tout parce que, vous le savez très bien, non pas du tout parce que je n'irai pas plus loin, mais parce que cette liste manifeste une certaine complexité et naturellement une certaine perversité générique, et pas seulement générique, mais aussi, paratextuel en tout cas, bien sûr. Paratextuel, puisque c'est un objet du paratexte, la liste du même auteur, naturellement. Générique, terminologique, ben, je ne vais pas le répéter, parce que Salgas l'a dit, n'est-ce pas, élégie, miscellanée, etc. Donc, taxinomique, vous avez un certain partage des genres littéraires. Je ne dis pas que vous couvrez tous les genres littéraires, mais vous finirez peut-être bien par l'avoir fait. Je ne dis pas que vous couvrez tous les genres littéraires, mais vous avez un certain partage des genres littéraires du fait que vous avez un certain partage des genres de votre œuvre, n'est-ce pas, qui est quelque chose de tout à fait fascinant. Je ne dirais pas forcément que vous êtes le seul mais à être fascinant de ce point de vue. J'ai dû mentionner quelque part, il y a quelques auteurs qui sont assez intéressants aussi à cet égard, tels que Giono, par exemple, ou Cocteau. Si on lit la liste des œuvres du même auteur d'un sur la page de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de contre-garde d'un roman de Giono, on voit ça. Cocteau aussi, pour une certaine classification assez particulière des genres littéraires qu'il a pratiqués. Aragon aussi. À mon avis, vous êtes le plus subtil sur ce plan. Et le plus subtil, certainement, c'est cette fabuleuse catégorie qui s'appelle non pas roman au pluriel, sous laquelle se trouveraient deux romans de vous, mais qui s'appelle roman au singulier, en italique, deux points, et là-dessous, effectivement, deux titres, qui sont roman roi et roman furieux. Et personne ne saura jamais exactement quelle est la relation, quel est le sens, au fond, que vous donnez à roman. Bon, on n'est pas obligé de choisir, disons, entre les divers sens possibles que l'on peut imaginer que vous donnez à roman de la liste en deux items, roman roi et roman furieux. Pourquoi j'insiste tellement sur cette question du paratexte ? Encore une fois, c'est entre autres pour répondre à la question de Salgas qui est-ce que votre intérêt pour le paratexte est d'ordre sociologique ? Ma réponse est non, elle est d'ordre esthétique, n'est-ce pas ? Et en particulier quand on tombe sur un paratexte comme ça, n'est-ce pas ? Si on n'a pas une réaction esthétique, alors je crois qu'il vaut vraiment mieux se consacrer à autre chose qu'à la littérature et à quel quart que ce soit, et je dirais volontiers à quoi que ce soit. Pour dépasser un peu cet aspect-là, mais qui, je pense que vous le sentez, n'est pas du tout pour moi superficiel ou accessoire, n'est-ce pas ? Et pour rattacher tout cela à la deuxième question que je lisais sous la question du jour et qui était qu'est-ce qu'un écrivain et non plus qu'est-ce qu'un auteur, n'est-ce pas ? Pour revenir en somme à cette distinction entre un auteur et un écrivain, je dirais que ce qui me passionne chez Renaud Camus et qui le rend pour moi tout à fait exemplaire, c'est qu'il couvre à la fois le champ de ce que j'appelle les littérarités conditionnelles et le champ de ce que j'appelle les littérarités constitutives, et naturellement, et ô combien, tout l'entre-deux. Conditionnel, c'est, disons, de façon plus de la façon la plus spécifique cette partie de son œuvre qui est constituée par les différents volumes ou les différentes étapes de son journal. Parce que pour moi, le journal est l'exemple type, est l'exemple parfait d'un type de texte dont la littérarité est conditionnelle. C'est-à-dire que, pour parler vulgairement, c'est pas tous les journaux qui sont des œuvres littéraires. Pour qu'un journal intime, comme on dit, soit une œuvre littéraire, il y faut un certain mérite, vous avez employé ce mot tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire qu'il y faut une certaine valeur, et si on l'a et si on l'y trouve, ce journal, qui n'est pas forcément en soi une œuvre littéraire, en devient une. Naturellement, ça n'est pas le cas du roman, ça n'est pas le cas des romans, ça n'est pas le cas de roman roi ou roman furieux, parce qu'un roman, je l'ai dit et je ne veux pas m'en dédire, est toujours constitutivement littéraire. Ça ne l'empêche pas de l'être aussi constitutivement, conditionnellement, c'est-à-dire d'être littéraire également par son mérite esthétique. Et puis, ce que j'appelle l'entre-deux, eh bien, ce sont toutes ces choses qui sont ici désignées par des termes comme églogue ou élégie ou miscellanée, qui, pour moi, et pour tous les lecteurs de Renaud Camus, je pense, se situent sur un plan qui est, me semble-t-il, très indécidable entre ce que j'appelle les littérarités par diction et les littérarités par fiction. Voilà ce que je tenais à dire, non pas pour envoyer des fleurs à l'autre, comme on disait tout à l'heure, mais parce que quand Jean-Pierre Salgas m'a dit « Avez-vous envie de rencontrer un écrivain vivant ?» Je crois, hein, j'ai mauvaise mémoire, mais je crois qu'il m'a dit ça. « Avez-vous envie de rencontrer un écrivain vivant ?» J'ai répondu évidemment « Non ». Et il a dû me dire quelque chose comme même Renaud Camus. Et alors j'ai dit, ah oui, Renaud Camus, oui. Alors je voulais quand même m'en expliquer et m'en justifier, ne serait-ce qu'à mes propres yeux.
Merci. Je vais juste vous poser une petite question avant peut-être de donner la parole au public, à vous qui avez écouté ce débat. Est-ce que vous avez lu Buena Vista Park ?
Mais non, je n'ai jamais dit, j'espère, surtout jamais écrit, que j'avais lu tout Renaud Camus. J'ai lu toutes les œuvres, toutes les listes de toutes ses œuvres, et j'ai lu une dizaine de ses œuvres. Voilà.
Non, je posais la question de Buena Vista Park à cause
mais
de
ça. Mais mon dernier soupir n'est pas pour tout de suite, j'espère.
il y invente ce qu'il appelle à la suite de Barthes une science des degrés de langage, et il y développe une sorte de fausse science, et il va m'en vouloir terriblement, qui s'appelle la batmologie, et qui d'une certaine façon est une sorte
Mais je connais ça.
Oui, voilà, mais c'est Barthes qui en parle dans RB par RB, mais
Renaud
Camus développe très longuement ça comme une sorte d'esthétique générale. Il dit même, d'ailleurs, j'ai retrouvé des citations cet après-midi, si la batmologie a raison, alors Adorno, Kant, Hegel, etc., c'est foutu. Donc c'est pour ça que je me posais la question de ça par rapport à...
Mais écoutez,
ça rentre en relation avec beaucoup de choses que vous avez pu faire, soit maintenant, évidemment, mais aussi dans des taxinomies anciennes. C'est pour ça que je vous posais cette question.
Non, mais alors écoutez, alors du coup, je suis obligé de poser une question de fait. À Renaud Camus, avez-vous parlé de batmologie ailleurs que dans ce livre-là ?
Oh oui, je n'arrête pas.
Ah ! Bon, parce que quand je disais je ne voulais pas dire seulement je le connais par Barthes, naturellement, mais il me semblait bien que je le connaissais aussi sous la plume de Renaud Camus. Voilà, mais donc si c'est plus spécifique dans Buena, etc., ce sera mon prochain Renaud Camus.
Il me semble, enfin pour ma part, que de la même façon que l'œuvre de Renaud Camus est largement, je pense, dépendante de taxinomies qui peuvent être les vôtres, de la même façon, je pense qu'on pourrait reformuler certaines de vos thèses à partir de la batmologie camusienne. Voilà, donc c'est juste, je voulais suggérer cet exercice final aux auditeurs. Y a-t-il des questions dans la salle ? Et Renaud Camus a-t-il éventuellement quelque chose à répondre ? Renaud Camus avait voulu Giono.
Non,
c'est une question que je me posais.
Je n'ai pas vu ce que j'étais supposé avoir du mal à avaler dans tout ça. Ces précautions oratoires du début m'ont paru inutiles. Non, tout ça a été très bien, très agréable.
Non, parce qu'en principe, il n'est pas très gratifiant pour l'auteur de dire à cet auteur Que ce qu'on trouve de plus fascinant dans son œuvre, c'est la liste de ses livres.
Vous savez,
mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire.
Est très important souvent pour les phrases. Et une telle phrase aurait pu être vexante de la part de certains, mais dans la mesure où c'est Gérard Genette qui vous fait compliment de vos jolis paratextes, moi je trouve ça que c'est au contraire le plus beau compliment qu'on puisse avoir.
Voilà, je n'ai pas dit joli, hein, et vous savez très bien que je n'aurais jamais dit joli.
Échange bathmologique s'il en est. Si c'est vous qui le dites, etc. Voilà. Madame. Prenez le micro pour de pures raisons d'enregistrement et plus qu'autre chose.
Je voudrais poser une question à M. Camus, mais j'ai peur de ne pas la poser très bien parce que je n'ai pas la citation de vous tout à l'heure quand vous avez dit que ce que fait l'auteur, le résultat qu'il aurait fait dans son œuvre écrite, dépasse l'auteur lui-même. Est-ce qu'il y a moyen de parler de ce procédé où l'auteur écrit et se dépasse? Est-ce qu'on peut... est-ce que vous avez compris ce que je vais vous demander? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cet état de votre âme, de votre cœur, de vos sentiments, où vous écrivez et ça vous dépasse et vous fait des choses merveilleuses? Sans avoir voulu le faire au départ, mais vous vous trouvez dans cet état qui fait que vous écriviez de cette façon. Est-ce qu'il est possible de parler de cet état?
La réponse à cela serait absolument gigantesque. Il faudrait des livres qui, en grande partie, existent déjà. Enfin, ce à quoi je pensais, on pourrait donner plusieurs réponses à votre question, mais ce à quoi je pensais essentiellement, c'est au fond à l'ensemble de la rhétorique, pour parler de façon assez genettienne, mais aussi tout simplement à ce qui s'appelle plus vulgairement le procédé, enfin ce qui s'est appelé beaucoup le procédé dans les années 60-70, ou tout simplement la rime. Quand ayant un mot et en cherchant un autre, on trouve une rime, on arrive à quelque chose qui n'est pas dans l'auteur lui-même, ou en tout cas qui a été entraîné, ou l'auteur est entraîné par ce qui pourrait être l'existence autonome du texte, ou ses mécanismes. Oui, il y a une... je pense évidemment, mais là encore je devrais m'excuser pour le côté daté de la terminologie, l'activité du signifiant est par définition non pas indépendante de l'auteur, mais il ne peut pas la contrôler. Enfin, elle obéit à des principes qui ne relèvent pas constamment du choix de l'auteur. Donc je pensais à ça, au procédé, à la rhétorique ou tout simplement à la rime. Oui.
J'ai toujours cru que vous étiez tellement emporté par tout votre être que vous ne guidiez pas, mais ça allait tout seul. Et vous parlez de rhétorique, donc vous commandez totalement.
Non, la rhétorique a son existence autonome. Mais alors, ce à quoi vous avez l'air de faire allusion, c'est une chose que... On a beaucoup critiqué, évidemment, dans les années 60 et 70, au fond, par exemple, le romancier qui parlerait de son inspiration, ouais. Ou que dirait l'un de ses personnages, il m'a totalement échappé, chose dont on s'est beaucoup moqué, et qui, au fond, est probablement plein de vérité. Mais, au fond, c'était un peu bête, ce n'est peut-être un peu bête d'y faire référence, que dans la mesure où c'est tellement vrai et évident, qu'il était aussi bien bête de s'en moquer. Enfin, par exemple... L'inspiration, qui a été quelque chose de complètement tabou, enfin au point que le mot ne pouvait même pas survenir, il semblerait beaucoup plus intéressant de s'interroger aujourd'hui sur ce que ce terme peut recouvrir de pertinent et qui est probablement assez vaste, plutôt que de s'obstiner à se moquer des gens qui parlent de l'inspiration ou à se moquer des romanciers qui disent avoir été emportés par leur personnage.
Monsieur, attendez le micro. Hein, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Ah non, passez le micro, oui, d'accord.
Merci. Alors, j'aimerais poser la question à Monsieur Genette. C'est à propos d'un auteur et un écrivain. Est-ce qu'un auteur, ça appartient au paratexte? C'est un nom sur la couverture ou la photo sur la quatrième de couverture? Un auteur, c'est un écrivain qui constitue une œuvre? Ou est-ce qu'un écrivain, c'est juste celui qui a écrit le texte qui se trouve à l'intérieur? Parce que vous avez parlé de ça au début et à la fin de votre intervention. Et en fait, je suis très curieux pour savoir ce que vous, vous en pensez. Entre la différence entre l'auteur et un écrivain, est-ce que c'est le même? Voilà.
C'est une question à laquelle je ne peux répondre que par des banalités. La notion d'auteur déborde celle d'écrivain, comme telle que je l'ai définie, telle que nous les définissons tous, je pense. La notion d'auteur déborde celle d'écrivain parce qu'on peut être auteur de bien des choses autres qu'une œuvre littéraire. D'ailleurs, je pense qu'on peut très bien utiliser, on est d'ailleurs souvent obligé d'utiliser le mot auteur à propos des producteurs d'autres types d'œuvres que littéraires, n'est-ce pas, des œuvres. Je vois pas très bien ce qui peut empêcher de dire que Stravinsky est l'auteur de Petrouchka et par conséquent, pourquoi pas que Vermeer est l'auteur de La Butte de Delft, etc., etc. Bon, mais enfin, pour revenir sur le terrain des productions verbales, n'est-ce pas, un auteur, naturellement, le concept d'auteur déborde le concept d'écrivain parce qu'il y a une foule de productions verbales, y compris écrites, qui ne sont pas des œuvres littéraires ou qui ne deviennent des œuvres littéraires qu'à ce fameux titre conditionnel dont je parlais tout à l'heure, sur lequel je ne peux pas vous faire tout un amphi. Je suis obligé de vous conseiller la lecture de Fiction et Diction, en tous les cas du premier chapitre. On peut être l'auteur d'un traité de logique, on peut être l'auteur d'un texte de loi, on peut être l'auteur de mille choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas constitutivement des œuvres littéraires, mais qui, encore une fois, peuvent très bien se trouver promus à ce statut par un sentiment de lecteur, et donc à la limite peut-être par au nom d'un caprice de lecteur, n'est-ce pas. Il n'y a pas si longtemps que nous tenons pour raisonnable de considérer qu'un journal ou même qu'une autobiographie, n'est-ce pas, puisse être une œuvre littéraire. Par conséquent, les conventions qui rendent constitutives des littérarités qui au départ ne l'étaient pas, donc qui étaient conditionnelles, et peut-être même des littérarités qui au départ pourraient paraître comme tout à fait invraisemblables, n'est-ce pas, Ces conventions culturelles ne cessent de se modifier, en général en s'élargissant, mais enfin, là, le dernier mot là-dessus est loin d'être dit. Donc on peut naturellement, on peut toujours recevoir comme littéraire un type de production verbale qui ne l'est pas de manière constitutive et canonique, et qui par conséquent ne constitue pas leur auteur en écrivain. Tout ceci se rapportant tout simplement à la vieille, je suis obligé de dire vieille, opposition barthésienne, n'est-ce pas, entre écrivain et écrivant, qui n'était pas une opposition, révolutionnaire, qui formulait de façon un peu plus ferme et un peu plus frappante des évidences qui sont de tous les siècles. Mais enfin, donc, l'auteur du code civil, je ne sais pas qui c'est, n'est-ce pas, en principe, ça n'est pas un écrivain au sens littéraire de ce terme, mais si, comme Stendhal, vous considérez le code civil comme un modèle de style, vous n'êtes pas très loin de considérer le code civil comme une œuvre littéraire. Comme vous savez, Stendhal en relisait 3 pages tous les matins ou tous les soirs, enfin tous les jours en tout cas, avant de se mettre au travail, quand il écrivait La Châtreuse de Parme. Je ne sais pas si ça se sent ou si ça ne se sent pas, mais je ne lis pas, moi, tous les jours 2 ou 3 pages du Code civil. Voilà, par conséquent, c'est, pour moi, si vous voulez, ces deux concepts sont en relation d'inclusion, n'est-ce pas? Le concept d'auteur est beaucoup plus vaste que celui d'écrivain, et ce qui fait le partage, si on peut parler de partage à propos d'une inclusion, n'est-ce pas ? Ce qui donne à écrivain un sens plus restreint et par conséquent plus fort qu'à auteur, c'est tout simplement le fait que certains textes sont des œuvres littéraires et que d'autres ne le sont pas. C'est vraiment bête comme chou, mais je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre.
Monsieur Auffon.
À vous poser à propos, à M. Camus, à propos de ce qu'il a dit à propos de Sade. Pourquoi vous avez rejeté Sade ? Parce que je trouvais que Sade, de même que Cervantes, tous les deux ont écrit dans un cachot. Ils étaient enfermés. C'est un point commun qu'ils ont, si je me trompe. Et donc, non, c'est très important. Ils ont ce point commun qu'ils ont écrit ensemble dans un cachot. Donc, ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu leur... Justement, ce qu'ils écrivent, ils ne l'ont pas vécu. La vie n'est qu'un phénomène du cerveau. Mais en ce qui concerne Sade, je voulais aller plus loin, Sade, finalement, s'est opposé à pratiquement 20 siècles de monothéisme, à la religion, finalement, en philosophant, bien entendu, sur la sexualité. La sexualité est un fait, c'est une réalité. Donc, je ne pense pas qu'on puisse finalement rejeter Sade à ce niveau. Je pense que Sade, c'est un très grand philosophe qui mérite d'être lu. C'est mon point de vue.
Je n'ai aucunement l'intention, quand bien même ça serait à mon pouvoir, de rejeter ça. D'ailleurs, je n'ai pas tendance à rejeter quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt ultra conservateur. Je garde tout, les bouts de ficelle, les détails sur la vie des gens. Tout m'intéresse, qui ne fait pas ça. Je détesterais l'idée de rejeter ça, bien entendu.
Ouais, parce qu'il
non, la seule chose que je voulais dire, c'est que je trouve que son statut actuel, enfin de même que Proust a remplacé, je crois, Molière comme écrivain tutélaire de nos lettres, on a l'impression que Sade est presque en train de remplacer Proust. Enfin, depuis quelques années, Sade est devenu le grand écrivain français, ce que personnellement je trouve parfaitement ridicule. Je trouve que Sade est un écrivain de second rayon assez intéressant. Je ne trouve en aucune façon que ce soit un grand philosophe. Ça me paraît à peu près assez aussi absurde. Nous avons connu des périodes pareilles. Il y a eu des époques, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais je vous assure qu'il y a eu des époques où beaucoup de gens croyaient, je crois sincèrement, je me demande même s'il n'y a pas eu quelques heures où je n'ai pas partagé ce sentiment, que Mao Tse-tung était un grand philosophe, enfin, qui est l'auteur de parmi les textes, philosophiques parmi les plus débiles, enfin les plus tout simplement faibles qu'on puisse imaginer, enfin, d'une imbécilité totale. Et je trouve que ça, de grand philosophe, non, personnellement, je ne peux pas y croire, mais
vous pouvez m'entraîner.
Bon, c'est certainement un philosophe intéressant au sens, encore une fois, thératologique du terme. C'est une monstruosité qui, en tant que telle, peut avoir sa séduction intellectuelle à un moment. Mais en fait, j'aurais plutôt tendance à critiquer son statut de très grand écrivain, et spécialement de figure tutélaire de nos lettres. Enfin, ça a dépassé directement de l'enfer et de l'interdit à un statut de Dieu, pour le coup. Enfin, Sade est le grand écrivain français, ce qui me semble absolument absurde. Enfin, il suffit de mettre côte à côte une bonne page de Sade et une belle page de Jean-Jacques Rousseau pour voir la différence entre... de Chateaubriand, mettons, pour s'en tenir à peu près à la
là,
même époque, pour voir l'immense différence de qualité littéraire. C'est tout ce que je veux dire.
Vous avez dit,
moi, je vous poserai une question biographique, je m'excuse 30 secondes. Est-ce que de cela, vous avez parlé dans le passé avec Barthes ? Parce qu'enfin, c'est Barthes qui a tout fait pour la canonisation de Sade comme grand écrivain.
Mais je n'étais pas toujours d'accord avec
Barthes. Non,
Barthes. Oui, j'ai parlé de ça avec Barthes.
C'est une pure question biographique.
Je crois même que nous avons vu ensemble Salo, le film de Pasolini, sur lequel nous avons une discussion très serrée, serait bien prétentieux de ma part, parce que ses arguments étaient certainement plus pertinents que les miens. Mais il a trouvé que Salo...
il a écrit un article dans Le Monde à l'époque sur Salo.
Je ne voudrais pas vulgariser sa pensée. Il me semble distinctement l'avoir entendu dire qu'il trouvait que Salo était un film bête, qu'il y avait une bêtise dans la lecture pasolinienne de Sade, ce qui n'impliquait en aucune façon dans son esprit, bien entendu, la bêtise de Pasolini, bien loin de là. Mais il trouvait que la lecture de Sade par Pasolini était bête, sans doute parce que trop littéral, et que la similisation sade fascisme ou siling salaud était tout à fait sotte, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je trouve Salaud un très grand film, quoique je ne le reverrai pas avec plaisir parce que je ne peux pas le supporter. Je suis content de l'avoir vu une fois, mais je ne le reverrai pas une deuxième fois. Oui, sur ce point, nous n'étions pas du tout en accord, mais ça arrivait assez souvent, vous savez.
Il y a un petit point, là, vous avez opposé, à un moment donné, Rousseau à Sade. De toute façon, Rousseau ne fait pas mieux. Oui, tout à fait. Dans la confession du curé savoyard, je crois. Bon, Monsieur Rousseau, qui est un très, très grand philosophe, quand vous prenez les confessions d'un curé savoyard, c'est de la religion, et c'est pour ça que vous êtes d'accord avec Rousseau de ce côté. Moi, j'estime qu'il faut lire et relire Sade. Bon, il traite de la sexualité, bon, parce qu'il démolit les religions. Moi, je suis d'accord avec lui.
Je ne suis pas d'accord avec Rousseau, je ne suis pas d'accord avec Sade, je n'ai pas tendance à être d'accord.